bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Merci de nous rejoindre avec Mila Kadoboudadi.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bienvenue.
Albert Albou.
Bonjour.
Alexis Rossignol. Frédéric Sigris.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Passureau. Oui. Et notre invité, Emmanuel Berco.
Bravo.
Bienvenue, Emmanuel. Vous,
merci.
Vous allez bien?
Je vais bien.
Bon, parfaitement. Vous serez à partir du 16 janvier, la semaine prochaine, mercredi, 16 janvier prochain, jusqu'au 24 février, dans Face à Face d'Ingmar Bergman. Ça se passera au Théâtre de l'Atelier. On va en parler ensemble de cette pièce qui est presque une psychanalyse. C'est une psychanalyse d'ailleurs, c'est une même psychanalyste qui se...
Une psychiatre.
Qui va elle-même partir dans les méandres de son esprit. On va l'accompagner, on va en parler ensemble de cette pièce. Mais d'abord, des questions concernant Emmanuel Berco autour de cette table. Savoir si vous avez bossé un tout petit peu votre sujet, les garçons, les filles, filles et garçons. Quelle occupation Emmanuel Berco pouvait-elle avoir avec son père le week-end?
La pêche à la ligne.
Alors, si tu...
La chasse.
Retiens bien cette réponse, c'est assez intéressant vu la vraie réponse.
La chasse à l'homme.
Retiens bien cette réponse, c'est intéressant vu la vraie réponse.
Le tir à l'arc.
Non, tu devais, tu devais dire quelque chose là.
Non.
Avant, tu voulais pas donner
un lien avec les animaux.
Non, ça a pas.
C'est du sport?
Non.
De la maçonnerie.
Le cinéma, aller voir des films, se promener.
La pétanque.
C'est en plein air ou c'est à l'intérieur?
C'est à l'intérieur, c'est très à l'intérieur.
C'est faire la sieste.
Le jeu de fléchettes.
Le bras de fer.
Non.
Jouer à la maison de poupée,
à
l'escape game,
au billard.
Alors, on est dans une
société,
dans une famille médicale.
Ah, au jeu de docteur.
Docteur Mabouleux.
J'adorais ce jeu.
Avec son père, c'est quand même.
Docteur Maboule.
Avec son père.
Non, non, non.
Alors
ça, c'est.
C'est médical.
Je crois que Julie Gaillet nous a dit à peu près la même chose aussi mardi.
Elle est jouée avec François Hollande.
Non.
Au docteur avec François Hollande.
Docteur Hollande, docteur Maboule. D'accord.
Ah, elle assiste à des opérations, à des actes médicaux. Voilà, c'est ça.
Exact.
Ouais, ça disait ça, Julie.
Donc, c'est une forme de pêche à la ligne, mais dans un autre, dans un autre style.
Ah, de tir à l'arc aussi.
Ça vous fascinait l'opération, le monde médical?
Oui, enfin, je voulais être chirurgien comme mon père, donc et c'est vrai que mes loisirs le mercredi, le samedi, le dimanche, c'était d'aller en salle d'opération assister. Il était chirurgien cardiaque en plus, donc c'était.
Vous êtes un coup de main.
Vous êtes intervenu, oui.
Est-ce qu'après vous
j'ai
les
sauvé pas mal de vies.
Est-ce qu'après vous les rejetiez à l'eau ou vous les gardiez?
Mais Emmanuel, vous dites c'était vos loisirs. Est-ce que franchement,
est-ce qu'on a le droit déjà?
C'était d'abord, c'était viens parce que il y a personne pour te garder, viens,
tu restes dans ton coin.
Ou c'est vous qui demandiez, papa, est-ce que je peux venir avec toi?
C'est moi qui demandais. Non, mais j'étais vraiment passionnée. Hein. Je le suis toujours, d'ailleurs.
D'accord. Est-ce que de temps en temps, vous jetez un morceau de viande?
Tu veux du foie?
C'est vraiment chirurgie cardiaque, c'était vraiment sa spécialité.
Ouais.
Et donc, vous étiez quoi, derrière la vitre et,
Non, j'étais autour de la,
du
corps.
Et même enfant, le sang, la perspective d'ouvrir un...
Mon poulet
et les autres infirmières ne se sont jamais rendu compte que vous étiez plus petite qu'elle.
Il faut avoir pour le coup le cœur bien accroché quoi pour
avoir le cœur bien accroché, le nez aussi parce que
ah ouais c'est vrai ça sent pas
les
bon.
Les odeurs sont le sang chaud ça sent pas bon le
enfant ça en quoi aimait se déguiser Emmanuel Berco?
En chat?
En chirurgien?
En cœur?
En prince?
En vampire?
Non, pas mal mais non.
En agui?
Non,
c'est la même chose.
Ah, c'est un déguisement traditionnel d'enfant?
On fait clochette.
Oui,
indien voleur.
Exactement.
Voilà.
Indien cow-boy.
Ce rapprochement indien voleur, c'est très raciste. Très, très raciste. C'est pas du tout France Inter.
Moi, j'étais sidéré.
C'est pas du tout France Inter.
Non, tu peux utiliser du voyage derrière.
Elle a dit indien voleur, elle les a opposés.
Voilà.
Indien d'un côté.
Merci beaucoup.
Voleur.
Si, les voleurs de terre.
Voilà.
Elle les a rapprochés.
Exactement. Cow-boy et indien. C'est on va dire dans les clichés, c'est pas très féminin comme
Pas du tout.
Mais non.
Pourquoi?
Non, mais j'étais pas du tout féminine.
J'ai dit dans les clichés. Ah. C'est un cliché.
Oui, c'est vrai. Non, mais il a raison.
Oui, traditionnellement, c'est pas les jeux de apparemment de filles quoi.
Et c'était pour jouer aux gendarmes voleurs, c'était pour le plaisir du déguisement, c'était après avoir vu je sais pas moi les John Wayne et John Ford et autres mystères de l'Ouest.
J'étais aussi passionnée par les westerns. à part la chirurgie. Et oui, ça venait de ça, en fait. Hein. Ça venait des,
Et la carrière de serial killer, ça a commencé à quel âge?
Alors là, je suis sur le tout début.
Okay. Je me lance.
C'est voilà. Bien, il n'est jamais trop tard.
Alors, Christine, on me rappelle que Christine Scott-Thomas, ce micro, nous disait aussi aimer jouer aux cow-boys et aux indiens et avoir appris, quand elle était petite et qu'elle jouait aux cow-boys et aux indiens, à mourir. Est-ce que l'actrice que vous êtes a joué à mourir au cow-boy indien?
Moi, je mourrais jamais. Non, c'est vraiment moi qui tuais les autres. Non, je mourrais pas. Non, j'ai jamais appris à mourir.
Quel était votre le film pour vous idéal de cow-boy?
Bah, le celui qui m'a le plus marqué, parce que c'est sans doute peut-être le premier que j'ai vu, c'est Le Bon, la Brute et le Truand, qui est un film culte. Enfin, pour moi, pour beaucoup de gens, mais pour moi de l'enfance, ouais. Film majeur.
Il y avait pas, ça s'appelait comment? L'homme cheval, non? Le
facteur cheval.
Non,
film,
non.
T'es pas obligé de parler de
un
tout ce que tu
vois. Cheval. Un homme nommé cheval, voilà.
C'est un formidable western formidable. Indianiste.
Où était Emmanuel Berco?
Au cimetière.
Lors de la remise de son court-métrage, du prix de son court-métrage à Cannes.
En train de fumer une cigarette?
Non.
Elle était pas à Cannes?
Elle tournait.
Je sais pas où c'était. Non, mais en tout cas,
c'était à Cannes.
Vous étiez à Cannes, vous?
Non, le prix.
Le prix était à Cannes.
Elle était couchée dans sa chambre d'hôtel. Elle était en vacances.
Elle était en train d'accoucher. Elle était.
Non, elle était chez elle.
Elle jouait au voleur.
Elle était enfermée chez elle.
Non, mais.
À regarder la télé.
Exactement.
Ah ouais. C'est
pour la remise du prix à Cannes, vous étiez chez elle en train de regarder la remise.
Chez vous.
Le dédoublement.
Il y a du mal, hein.
Vous étiez.
Le vendredi est toujours à la
rue. Vous étiez chez vous en train de vous regarder recevoir un prix, en fait.
Bah, en fait, j'avais compris que j'allais avoir un prix, parce qu'ils vous demandent de rester. Et puis, bon, à l'époque, j'étais un peu timide. Et j'ai pris le train pour Paris et je me souviens avoir ouvert la porte, allumé la télé pile au moment où mon prix était remis et où j'ai vu mon fauteuil avec mon nom, mais bon, il n'y avait personne dessus.
Oui, puisque vous étiez chez vous.
Oui. chez elle.
Oui, l'inverse aurait été terrifiant.
Ça aurait été terrifiant. Vous auriez dû l'envoyer à votre place.
C'est un hologramme, c'est le comble de la timidité quand même. C'est-à-dire, pour enfin, Festival de Cannes, prix.
Ouais, je sais, mais il y avait un jury qui était. C'était le 50e festival. Il y avait un jury extrêmement prestigieux. Je me sentais pas du tout le courage de monter sur scène.
Et vous regrettez maintenant?
Avec le recul, oui.
Ouais.
Ben oui, je pense que ça aurait été inouï. Voilà, j'ai sûrement raté une expérience, mais c'est pas grave. J'ai eu la chance d'en avoir d'autres après. Et puis,
un coup de com aussi quelque part où ça peut être considéré comme
un. Alors, je vous explique un truc, Nagui.
Expliquez-moi un truc, Emmanuel.
Quand on fait son premier court-métrage,
parle de vous, donc on dit, elle est pas venue, elle est pas là, rebelle.
Personne n'a parlé de ça. Ce qui est resté, c'est que j'ai eu le prix du jury pour ce court-métrage et ça, c'est super. Là, vous le citez parce que je sais pas où vous avez vu ça, mais en vrai.
Je sais pas où j'ai vu ça.
Personne ne le sait.
Je vais vous le dire où j'ai vu ça.
Oui, vous avez dû le voir quelque part. Oui, oui. Je vous dis pas que c'est pas vrai. Hein.
Non, franchement.
On pense pas.
T'as déjà du mal de dire que je lis Télérama. Surtout
que tu viens de l'apprendre que tu lisais Télérama.
Je viens d'apprendre que c'était ça.
C'est 2019.
On a dit bonne résolution. Pour quelle raison Emmanuel Berco peut-elle traverser toute la France?
Sûrement pas pour recevoir
un prix.
Pour acheter quelque chose.
Pour chercher de la drogue.
Pour acheter quelque chose.
Un cheeseburger.
Un bon fromage.
Du vin.
Des cartouches de cigarettes moins chères.
De la viande, précisément.
Je ne peux pas accepter de cheeseburger, mais en tout cas, c'est une raison. Ouais.
Pour la nourriture. Ouais.
Exactement, oui. Pour un bon restaurant, pas pour un cheeseburger.
Il y a des excellents cheeseburgers. Ce végétarien, il m'agace. J'ai dit burger.
Mais cheeseburger, c'est
assez bloqué.
C'est du fast-food. C'est du.
Et donc Emmanuel.
C'est une raison pour postillonner.
Non, c'est vrai.
Et donc Emmanuel.
Je vous rappelle qu'on a une invitée.
C'est ça. J'essaie de.
Alors justement, quelle est votre définition du bon restaurant? Parce que traverser toute la France pour un bon resto, ça veut dire quoi? Un bon resto, c'est la bande de potes avec laquelle vous avez partagé le repas.
Non, j'ai pas besoin de traverser la France. Non, mais j'ai pas mal de passion, mais la cuisine en est une. Pas la faire, mais la manger. Et
Vous dites même c'est une obsession.
Oui, c'est une obsession. Enfin, je vis pour manger. Je ne mange pas pour vivre, moi. Et non, c'est vrai que je peux faire.
Je repense à vous dans le bloc opératoire. Il y a vraiment une association d'idées où je me dis, je sais pas s'il fallait laisser entrer cet enfant.
C'est bizarre. Hein.
Non, un bon restaurant, c'est un repas dans lequel on peut avoir des émotions qui sont aussi fortes que devant un film, un tableau, en écoutant une musique.
Donc vous pouvez pleurer en découvrant un goût.
Honnêtement, j'ai jamais pleuré en découvrant un goût. Mais je peux avoir des sensations qui font que je vais y repenser le lendemain, puis une semaine plus tard, puis un mois plus tard. Puis encore,
une émotion forte.
Ouais. Voilà.
Aussi bien sur un vin que sur un plat particulier.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et c'est quoi vos plats préférés, alors?
Ou les dernières émotions, enfin.
Justement, c'est des plats que dont je ne connais même pas, en fait, la composition, quoi. C'est des choses, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est une saveur extraordinaire, comme j'en ai jamais connu avant. Voilà, ça peut être des choses comme ça.
Nous allons parler donc de cette pièce que vous allez jouer à partir de la semaine prochaine, le 16 janvier jusqu'au 24 février, Face à Face, Ingmar Bergman. Vous êtes donc normalement le personnage est là pour soigner, pour s'occuper de patients. D'ailleurs, c'est l'ouverture de la pièce avec un rapport physique immédiat, d'ailleurs avec l'une de vos patientes.
Oui, parce que la pièce s'ouvre par une consultation entre cette psychiatre et une patiente qui nourrit un désir physique pour son médecin.
Et oui, qui la provoque un tout petit peu.
Qui la provoque quand même complètement
barrée. Avec des gestes, oui, c'est ça.
Enfin, qui a envie d'être aimée par ce médecin, aimée amoureusement, qui a envie de coucher avec son médecin, elle le dit. Et cette femme psychiatre reste totalement impassible devant sa patiente, à qui elle dit que justement, tout le travail est à faire sur empêcher les liens entre le médecin et son patient.
Donc on la sent forte cette médecin, on la sent même responsable presque d'un service, maîtrisant tout ce qui s'y passe, et pourtant elle a une vie personnelle assez particulière. Son mari Eric, si j'ai bonne mémoire, est parti à l'étranger. Elle a quand même pris un amant. Bon, je l'aime hein, mon mari, c'est pas le problème, mais j'ai quand même pris un amant.
Elle s'occupe, c'est tout, voilà.
Elle remplit son temps.
Et malgré cette vie qui peut paraître comme ça assez organisée, calée, d'une femme forte qui décide de ce qu'elle fait comme elle le veut, un événement dramatique, puisqu'il s'agit d'un viol, va venir tout bouleverser et la faire tomber dans une dépression, et la plus grave des dépressions, celle qui mène au suicide.
Oui, mais c'est ça qui est beau et particulier, je trouve, dans ce texte, enfin, qui est un film au départ.
À la base,
de
Bergman. Et qui a été nommé aux Oscars en plus.
Elle a été nommée, oui, le film aussi, Man, je crois. Ouais. C'est ça qui est beau, et c'est pour ça que je pense que la pièce, enfin, le film et la pièce peuvent toucher beaucoup d'entre nous, c'est que c'est une femme qui a en apparence une vie tout à fait heureuse et équilibrée, et on va s'apercevoir petit à petit qu'elle s'est construit comme beaucoup d'entre nous avons, une carapace, et elle porte un masque qui cache des fêlures plus que ça, enfin des brisures très profondes en elle liées à l'enfance, et qu'un événement, en l'occurrence une agression, va
tout chambouler.
Cette digue.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et tout va sortir, et elle va enfin avoir, grâce à ce traumatisme, des réminiscences de ces traumatismes originels dans l'enfance qui vont peut-être lui permettre de vivre bien sans porter un masque.
Oui, et surtout, enfin, elle envisage le suicide avec une espèce de sérénité, c'est-à-dire que même le message...
Je le comprends, je ne sais pas si vous le comprenez, vous, mais...
Non, il a du mal.
Mais vous faites bien de poser la question.
Sérénité et suicide en même temps, je pense qu'il coïncide.
Si, parce qu'à un moment, la douleur est telle de ces fantômes, de ces démons, de ce qui la ronge et qu'elle ne sait pas encore identifier qu'elle a juste envie, d'ailleurs elle le dit, elle va prendre ses médicaments et puis elle va se coucher et elle va dormir. Mmh. Et vous savez bien, quand on a des gros soucis dans la vie. Enfin,
on Nagui connaît pas trop ça. Je... pas trop de soucis, Nagui Michel.
Vous pouvez laisser parler notre invité.
Enfin, on sait bien que quand on a des gros soucis, on a envie de dormir et de plus penser à rien. Et c'est vrai qu'elle aborde le suicide, pas du tout de façon violente, mais comme une libération... absolue.
D'accord, il y a quand même une large frontière entre la dépression et l'envie de suicide, c'est-à-dire n'avoir envie de rien, de rester enfermé, de s'endormir, de ne voir personne, c'est de la dépression, ouais. et de passer au stade de je vais quitter ce monde.
Mais la dépression ne mène pas toujours au suicide, et on peut parfois avoir des actes de suicide sans être dépressif. Le psychiatre nous le confirmera peut-être tout à l'heure, mais je pense que c'est juste. Mais là, elle n'est pas dépressive.
Quand vous dites le psychiatre, nous confirmera tout à l'heure, il faut juste préciser quand même que nous avons...
En permanence, un psychiatre dans son studio.
C'est François Guy qui l'accompagne.
François Lelor, qui est psychiatre et écrivain, qui en effet interviendra tout à l'heure dans l'émission.
Mais c'est pas qu'un psychiatre.
Non, c'est pas une cellule particulière propre à l'émission.
On parle tous les matins, en fait.
C'est juste un trapenard qui est...
Et ça fait écho à la vie de Bergman, en fait. Parce qu'il a connu un épisode dépressif, il a été interné.
Oui, mais c'est quelqu'un qui avait de toute façon, enfin, je parle comme si je l'avais connu, mais de ce qu'on sait de lui, qui avait un mal de vivre, enfin un mal-être et des tourments extrêmement profonds aussi liés à l'enfance, et qui a passé sa vie d'ailleurs à essayer d'explorer le sens de la vie et comment on pouvait vivre avec toutes ces souffrances originelles. Donc oui, c'est quelqu'un qui était assez... sinon très dépressif, très très tourmenté.
Dans l'adaptation de Léonard Maton, la mise en scène aussi, il faut, pour passer d'un film à une pièce de théâtre, pouvoir passer d'un décor à l'autre. Tout se fait par un jeu de lumière, tout se fait par des accessoires, des éléments de décor qui glissent comme la chute que l'on peut faire à l'intérieur de l'esprit même du personnage, parce qu'on est vraiment avec vous dans cette chute, dans cette dépression, dans ces apparitions, dans ces voix que l'on entend, on ne sait même plus où est la vraie vie,
la frontière
où est le voyage dans l'esprit du personnage.
Oui, le personnage va avoir des petit à petit au fur et à mesure de la pièce, c'est un peu comme une enquête d'ailleurs aussi pour le spectateur, parce qu'il découvre en même temps quels ont pu être les traumatismes qui l'ont conduite à ce mal-être profond. Et elle a des révélations au fur et à mesure, au travers de rêves, comme c'est souvent le cas dans l'œuvre de Bergman. Et donc, il y a un glissement permanent, des allers-retours entre la réalité et les rêves. Et parfois, on ne sait plus très bien quelles sont les scènes de réalité, quelles sont les scènes de rêve. Et tout ça se télescope jusqu'à la révélation finale à la fin de la pièce. On n'est plus du tout dans le rêve.
Ça s'appelle Face à Face. La manière avec laquelle vous jouez est extrêmement forte. Ça doit être même physiquement éprouvant, non ?
Oui.
Quand on est actrice, de jouer un rôle comme ça.
C'est très éprouvant, mais ça fait aussi partie du plaisir de jouer cette pièce, quoi. C'est comme un...
Dans quel état vous sortez de scène, parce que c'est...
Je sors complètement vidée, une loque humaine.
Non, c'est ça.
Parce que je suis obligée quand même de pousser très très loin les émotions.
Et c'est pas que physique, c'est mental.
Non, bien aussi. Sûr que c'est mental, ouais. Mais ça passe quand même beaucoup par le physique, les émotions, les pleurs, c'est épuisant. Donc on sort vidée, mais c'est le seul moyen de jouer cette pièce. Si je me donne pas... presque, j'ai envie de dire corps et âme, ça, je vais pas réussir à faire passer ce que Bergman a voulu raconter.
Vous pensez que vous allez tenir jusqu'au bout?
Non, je ne pense pas.
Il y a 35 représentations.
Non, sérieusement, je ne pense pas que je vais tenir jusqu'au bout.
Monsieur, 35 représentations exceptionnelles. Il parlait d'émission, il ne parlait pas de la scène. 35 représentations exceptionnelles. Vous partagez la scène avec Nathalie Kouznetsov, Evelyne Istria, Philippe Dormois, David Harib, Thomas Gendronneau et Lola Lelanne. La musique et la lumière sont très présentes également. On va en parler dans toute cette mise en scène. Ça se passe au Théâtre de l'Atelier, qui renoue, j'ai envie de dire aussi, avec les pièces de ce genre-là, oui, ouais. des textes forts.
Vous parlez du Théâtre de l'Atelier.
Le Théâtre de l'Atelier, oui, parce que c'est un théâtre où les pièces d'auteurs et de grands auteurs ont souvent...
Récemment, ils avaient fait des trucs pas superbes, c'est bien qu'ils s'en...
Non.
en substance.
Non, c'est non, non, mais c'est, un théâtre merveilleux chargé, et je trouve qu'il est tellement adapté à l'esprit, à l'univers de cette pièce que j'espère que la rencontre entre le théâtre et la pièce va être
c'est important aussi.
Ouais, vous avez raison de dire que c'est pas anodin le lieu où une pièce est jouée.
Pas
parce qu'on
tout.
A tendance à penser, voilà, on va monter telle pièce avec telle distribution et on va trouver un théâtre. Et je trouve vraiment que l'esprit de l'atelier, ou en tout cas ce que le lieu dégage, est vraiment en adéquation avec cette ambiance un peu de folie, de difficulté, comme on l'a dit, à distinguer ce qui relève de la réalité ou de la pensée de Jenny et de ses méandres, en fait.
Et des odeurs de sang chaud.
Jean-Philippe Manœuvre, ça va être un succès, Emmanuel Berco, au théâtre.
Of course que Face to Face, ça va être un fucking success, surtout grâce à Emmanuel Berco. Mais avant de te dire pourquoi, before telling you why, il faut que je te félicite, Nagui, pour tes bonnes résolutions. Je sais, mes vieux potes, le père Albert, Marshall Ganache, Gigi Lang, ils n'ont pas arrêté de te le dire tout au long de la semaine. Congratulations pour ta décision en 2019, 2019, mais de plus jamais faire dans le futile, le light, le people. Avant, tout Paris disait « Putain, The B.O., la bande originale, quelle mièvrerie !» Nagui sert de la soupe à la guimauve, ils reçoivent que des endives pour leur mouiller la compresse. Bah, tout ça, c'est fini, terminé. Maintenant, Nagui, c'est super, tu programmes que du lourd, du grave, du qui fait sens, comme dirait Leïla Kadour. Putain, le changement, the change, j'hallucine. Avant-hier, comment t'as destroyé le faux biographe de Didier Deschamps. Putain, c'était bon, le fight. Aujourd'hui, tu reçois Emmanuel Berco, qui joue du Ingmar Bergman. Et je t'ai même entendu dire à Leïla, qui te demandait ce que t'avais pensé de la pièce. Et là, tu lui as répondu, je te cite, en interrogeant le statut des représentations, le théâtre se fait double du thérapeute et herméneute de la narration. Putain, du coup, Leïla, elle a repris du poppers tellement elle hallucinait. Moi, bon, mon analyse, man, c'est que cette histoire d'une psychiatre qui sombre dans la dépression et l'autodestruction aux limites du suicide, mais fuck the fucking fuck, c'est une histoire complètement rock. Mais attention, pas du Danny Briand, pas du Black M et Anne Roumanoff en duo à Taratata. Non, du rock cold wave, bien dark, complètement déprimé, totalement déprimant. Façon Ian Curtis, le chanteur du mythique Joy Division, qui le 18 mai 1980 à 7h37 du matin s'est pendu dans sa cuisine. Du rock façon Kurt Cobain, qui s'est dessoudé dans son garage en portant dans sa tombe son ultime recette qui devrait te plaire, Emmanuel. Le pâté de tête au pruneau. Du rock façon Janis Joplin, overdosé le 4 octobre 1970 à Chelsea, alors qu'elle allait enregistrer Buried Alive in the Blues, enterrée vivante dans le blues. Putain, là, comme Jenny dans Face to Face, je sens que je dois me ressaisir. Alors je me dis à moi-même et à haute voix, stop in the name of love. So long, bonne émission.
Merci, Albert.
La bande originale.
Oui, la musique est présente dans cette pièce, notamment avec carrément une chanson interprétée guitare-voix par Thomas.
Si oui, Jean Bruno, oui.
Voilà, ma mémoire est bonne. Ça, c'est une chanson française, donc ça, Balavoine,
oui.
Qui ne fait pas partie, j'imagine, des didascalies d'Ingmar Bergman.
C'est la même personne.
Comment est venue cette idée?
Je ne sais absolument pas.
De Léonard Maton, j'imagine.
Oui, Léonard a eu envie qu'il y ait une chanson à ce moment-là, que ce soit cette chanson de Balavoine. Je ne sais absolument pas d'où lui est venue cette idée. Mais ça fait... Non, mais enfin, je ne sais pas, moi, je n'ai pas vu
le spectacle. Elle fait sens pour le...
Oui, elle fait sens pour les paroles, évidemment. Ce n'est pas complètement déconnecté de la pièce, mais c'est quand même un moment totalement inattendu.
Il aurait chanté Tata Yo-Yo.
Non, je crois que c'est de la vie ne m'apprend rien. Je ne sais plus d'ailleurs quel est...
Non, alors je vais être incapable de dire le titre. C'est une des plus connues, hein.
C'est vivre ou
vivre survivre. Ou survivre, exactement. Ou survivre, voilà, donc fait sens.
Ça fait sens.
Ça fait sens. N'est-ce pas? Voilà.
Ouais, la vie ne m'apprend rien.
Ça marche aussi. Ouais.
Et la faire seule guitare-voix, celle-là, il faut s'accrocher.
Faut oser.
Ouais,
mais c'est bien.
Oui, oui, non.
C'est dur, non, c'est obligé, non, parce qu'on voulait dire, c'est très
il
dur.
Le fait, il le fait, mais il le fait bien, ça pourrait être, c'est un peu casse-gueule, mais...
Ça s'appelle Face à Face, et c'est au théâtre à partir, au théâtre de l'Atelier, à partir du 16 janvier prochain. Voici l'humeur d'Alexis Le Rossignol. Hey
salaud.
Comme ça,
ah, comme ça. Ça fait plaisir.
Enfin, c'est bonjour. Alors, je suis content aujourd'hui. Hein. Je suis content parce que j'ai trouvé un bon sujet.
Ah oui.
Ah ouais. Ça parle de femmes, de beauté, de racisme. C'était pas facile à traiter. À un moment donné, je me suis même contredit. J'étais là. Mais comment tu peux dire un truc pareil? Calme-toi. Après, je vais relire. Enfin, en fin de compte, j'ai pris du plaisir. Je sais pas si vous êtes au courant, mais la semaine dernière, c'était l'élection de Miss Algérie en Algérie. Oui, en général, la Miss porte le nom de son pays. C'est comme ça, c'est une convention. Et comme personne n'a lancé de cagnotte litchi pour s'y opposer, bah ça continue. C'est comme les capitales d'Amérique latine qui portent le même nom que leur pays, c'est comme ça. Capitale du Guatemala?
Guatemala City.
Bien vu, bravo. Capitale du Salvador?
Salvador City.
Capitale du Honduras?
Oh, ça me fatigue.
Tegucigalpa. Je vous parle de Miss...
Piège. Il y avait un piège.
Ouais, il y avait un piège.
En dernier, tant qu'à faire.
Je vous parle de Miss Algérie parce que c'est parti en cacahuète là sur les réseaux sociaux.
Ah oui.
Souvent, pendant les élections de Miss, on a le droit à des blagues sur le QI des filles.
Ouais.
Parce que certains ont du mal à comprendre qu'une fille puisse être à la fois jolie et intelligente. Pourtant, on peut avoir les deux. Bon, c'est un peu injuste quand t'as ni l'un ni l'autre, mais on s'y fait.
On peut essayer de parler de toi, s'il te plaît.
Cette fois-ci, c'est pas le QI des filles qui a été critiqué, mais la couleur de peau de la gagnante. Sur Twitter et Facebook, des dizaines d'internautes ont écrit que Khadija Benhamou était trop noire pour être élue Miss Algérie et représenter leur pays. Pourtant, Khadija, elle est née à Adrar, en plein centre du pays. Géographiquement parlant, Khadija, c'est Miss Limousin, tu vois. Mais c'est le problème des réseaux sociaux. À la base, les réseaux sociaux, ça part d'une bonne intention. Discuter, échanger, débattre dans la joie et la bonne humeur.
Bien sûr.
Sauf qu'aujourd'hui, chaque événement un peu médiatisé attire les trolls et les haters. Au début, tu les vois pas, et puis tout d'un coup, bam, ils apparaissent comme des contrôleurs de la RATP, tu vois.
Ils sont pas des trolls.
Nous,
c'est effrayant.
Nous, chez Inter, on a du pot, on a des haters sympas. Tu vois, qui se contente d'écrire « Rendez-nous Pierre-Emmanuel Barré » sous les vidéos des chroniques. J'en ai parlé à la direction, apparemment c'est pas possible, les gars. Alors heureusement, beaucoup d'Algériens ont aussi apporté leur soutien à leur nouvelle Miss, en disant simplement qu'ils étaient fiers d'elle et qu'elle était très belle. Parce que les Miss sont toujours belles, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais aussi parce qu'elle représentait la diversité de l'Algérie. Parce qu'en Algérie, il y a des blancs, il y a des marrons, il y a des noirs, et tout ça, ça forme un tout qui s'appelle la diversité. Le problème, c'est qu'expliquer la notion de diversité à un raciste, c'est un peu comme parler hygiène bucco-dentaire avec un fan de Houellebecq. Tu vois, il va te dire, on s'en fout de la propreté, on est des pessimistes. De son côté, la nouvelle Miss a répondu en disant, moi, je ne regarde pas les réseaux sociaux. Que Dieu montre le chemin à ceux qui me critiquent et préserve ceux qui m'encouragent. Ça, c'est une belle
c'est
réaction.
Classe,
ouais. Ouais, c'est plein de noblesse et d'intelligence. Ça m'a rappelé la réaction de Ribéry après l'histoire de la Côte de Bœuf. Moi, parfois, dans mes rêves les plus fous, je rêve d'une terre d'accueil pour les racistes du monde entier. Un espèce de grand rassemblement bienveillant où ils se retrouveraient tous, tu vois. Mais en réalité, on n'aurait même pas la certitude que le fait de partager une passion commune pour l'intolérance suffise à créer du lien. On assisterait à des scènes compliquées du genre « T'es arabe, toi ?» Arabe, oui, mais raciste avant tout. Moi, je suis un raciste blanc, si tu veux. Donc, par définition, toi, je t'aime pas. Je suis désolé, j'ai pris un engagement implicite. J'apprécie le fait que toi-même, tu sois raciste, mais tu comprends. Si je m'affiche avec toi, je suis plus crédible, quoi. Moi, je propose un truc. L'élection de Miss Beauté Intérieure. Un concours auquel toutes les femmes pourraient participer sans être ni pesées, ni mesurées, ni évaluées. Ou encore mieux, on arrête ces concours ringards. Hein, tu vois. Aujourd'hui, on trouve ça scandaleux, mais je vous rappelle qu'il y a 150 ans, on exposait des indigènes africains aux zoos de Vincennes. Tu vois. Alors pourquoi continue-t-on à exposer des femmes? En attendant, je retourne à mon quotidien, fait d'un Albert, d'un Daniel, mais aussi d'une Leila et d'un Nagui. Ça, c'est de la diversité. Allez, salut les haters.
Merci Alexis.
La bande originale, Nagui. Sur France Inter.
Alexis, qu'on retrouve au Scénarium à 19h.
Sur un petit post-it.
C'est un grand spectacle
sur un
petit post-it.
Les garçons font un effort, ils mettent ça sur des vraies feuilles. Et ben voilà, et Alexis Le Rossignol, il me file un petit bout de papier.
Mais c'est une petite feuille, mais ouais, sauf
fluo. Parce que je suis écologie.
Ouais, c'est ça. C'est
pas le bel exemple.
C'est écrit au glyphosate. Hein,
ouais, c'est ça. On va parler de la musique que vous écoutez et que vous aimez, Emmanuel Berco. Vous avez été bercé dès votre naissance par Duke Ellington. renvoie des images quand vous entendez ce caravane par Duke Ellington.
Oui, oui. Enfin, on écoutait beaucoup de jazz à la maison, mais surtout mon père, donc le chirurgien.
En opérant.
Était aussi un très bon pianiste, et comme tous les chirurgiens, rentrait très tard à la maison, et à chaque fois quand j'étais enfant, au moment où on essayait de s'endormir, il commençait à se mettre au piano, et je sais pas pourquoi, il jouait beaucoup Caravane, donc c'est vraiment très très lié
à votre petite enfance.
Ouais.
On est en 67, et en lisant les interviews qui vous concernent, Emmanuel Berco, j'ai relevé une expression, le rapport à la honte sociale. Là, récemment, on a entendu à la télévision Corinne Massiero qui racontait la difficulté d'être née dans un milieu très très modeste, d'avoir vécu des années de galère. Et finalement, je trouve qu'il y a un parallèle. Vous racontiez que vous aviez honte matin et soir, parce qu'il y avait votre famille finalement représentait l'alpha et l'oméga de la condition sociale.
Oui, enfin, je me suis toujours sentie comme une personne hybride, et en sachant pas très bien de quel côté me placer, et profondément, je me sens appartenir à un milieu qui n'est pas celui dans lequel j'ai grandi. Donc c'est quelque chose d'assez étrange.
C'est troublant. Ouais. Ouais. Vous parlez de votre grand-père qui avait un chauffeur, et qu'on venait vous amener à l'école avec un chauffeur.
Oui, et ma mère qui vient me chercher pieds nus avec une robe de gitane. Donc oui, j'ai été un peu tiraillée toute mon enfance entre deux origines sociales vraiment opposées, celle de ma mère et celle de mon père, et voilà.
Et qu'est-ce que ça provoque, à part du trouble sur le moment, mais en grandissant, justement, on est à l'aise partout?
J'ai l'impression d'être plus à l'aise quand même dans je suis pas très à l'aise dans la bourgeoisie, bien que j'ai mes parents n'étaient pas du tout bourgeois, mais enfin j'ai quand même évolué dans ce monde-là. J'étais dans une école d'enfants plutôt aisés et tout ça, mais mes racines profondes, je sens que c'est pas celle-là.
En 97, encore élève à la Fémis, vous écoutiez. Ou du moins cette musique vous évoque quoi?
Alors ça, vraiment,
c'est du Bach.
Bach m'a, pour vraiment rejoindre le sujet de la pièce, Bach m'a vraiment, je vais pas dire sauvé la vie parce que c'est un peu emphatique, c'est un peu, mais m'a vraiment beaucoup aidé à des moments où j'allais pas bien du tout. Et
vous êtes sûr qu'en écoutant cette musique, quand on va
mais
pas
oui,
bien.
Mais oui, je sais,
vous
ça peut paraître
vraiment mal. Hein,
ça peut paraître bizarre.
Mais il y a une sorte de grâce. Non, il y a une grâce absolue.
Il y a la grâce et il y a du divin. Il y a de voilà. Donc disons que j'ai toujours eu l'impression que ça m'élevait l'esprit quand mon esprit était très noir.
À défaut de mettre la pêche.
Mais non, ils comprennent rien, les écoutez pas.
On est en 97.
Ils savent pas ce que c'est que la beauté.
Non, mais c'est vrai que c'est divin. Enfin, il y a quelque chose, une élévation. Il y a.
Oui, c'est ce que je ressens.
On échappe un peu à sa condition aussi, tout d'un coup. Quoi.
Moi, ça m'emmène vers l'au-delà.
Mais t'as pas envie de revenir.
C'est ce qui me fait peur. Oui.
Ouais. C'est pas croyable.
On est en 97, Emmanuel Berco. On a évoqué votre court-métrage Les Vacances, qui avait été primé à Cannes, où vous n'êtes pas allé par timidité. Vous étiez encore élève à la Fémis, c'est ça, hein?
Oui.
C'est, je veux dire, ça lance quand même un début de vie, un début de carrière qui est assez impressionnant, même pour une jeune femme.
Ah, c'est complètement impressionnant et même miraculeux, hein, parce que ma vie, elle a changé du jour au lendemain, en fait, avec ce passage par la Fémis qui grâce, entre autres, au prix du jury à Cannes pour mon premier court-métrage, m'a quand même ouvert énormément de portes. Et ma vie, elle a vraiment complètement changé.
Quelles portes ça ouvre? Des rencontres de producteurs?
C'est tout simplement parce que quand un film a un prix, tout le monde s'y intéresse avant même de l'avoir vu. Et parfois même, on vous appelle alors qu'on n'a même pas vu le film. Mais bien sûr, on s'intéresse à vous. Ça ne veut pas dire que des choses vont obligatoirement se passer après. Mais beaucoup de gens s'intéressent à vous. Donc, il y a plus de chances que quelque chose se passe que que quand on connaît personne, qu'on n'est pas identifié, que voilà.
On en a parlé de la place de la femme réalisatrice avec Lolita Chama et Julie Gayet aussi, et elle nous disait que le pourcentage de réalisations faites par des femmes était encore trop faible.
Oui, c'est autour de 26%,
c'est
je
ça.
Crois.
Et en France, c'est l'un des plus élevés. Et encore, en France, c'est l'un des plus élevés.
Oui, en France, c'est l'un des plus élevés.
Alors qu'à la Fémis, j'imagine, c'est 50-50, la présence homme-femme, non ?
Est-ce que c'était le cas à mon époque ? Mais maintenant, avec tous ces débats, évidemment, je pense qu'il y a un souci de parité à la Fémis. Mais bon, vous savez bien que dans l'art, il n'y a pas de... Je veux dire, il y a pas de... C'est le public, en fait...
Mais rien que le nom que l'école, quand même.
Hein ?
Fémis.
C'est un peu réducteur. Pour les hommes.
Mais alors, comment l'expliquer ? Est-ce que ça vient des producteurs ? Est-ce que ça vient de ceux qui financent les projets ? Pourquoi les femmes ne réalisent pas plus de films ?
Mais parce qu'elles ont commencé beaucoup plus tard. C'est comme pendant très longtemps, pour fermer la boucle, il n'y avait pas de femmes chirurgiens.
Ouais. Pas de femmes avocates, c'est depuis un siècle.
C'est aussi simple que ça, moi je ne comprends pas pourquoi ça soulève autant de... L'interrogation,
c'est... Donc vous pensez que ça va finir par arriver ?
Mais bien sûr ! Mais d'ailleurs, entre quand j'ai commencé il y a 20 ans et maintenant, il y a beaucoup plus de réalisatrices. C'est pas un souci, une nécessité absolue que ça s'équilibre.
Donc c'est même pas un combat pour vous ?
Pour moi ? Non, il y a un combat, c'est celui de l'égalité des salaires, qui n'est pas du tout...
Réglé, ouais.
Elle vient d'où la position de ne pas payer aussi bien les hommes que les femmes ? Dans un métier artistique où
question de logique
où il y a pas de grille de salaire particulière, c'est que de la négo.
Enfin, pourquoi
une actrice serait moins payée qu'un acteur ? C'est juste la négociation avec un agent.
Mais il n'y a strictement aucune raison.
Mais dans le monde du travail, c'est souvent la même chose.
Oui, bien sûr. Ah oui. Non, mais bien sûr.
Tu pourrais dire dans le monde du travail, pardon, il y a des grilles de salaire et il va falloir.
Mais c'est une vieille histoire.
Une vieille histoire. Or, dans une négociation de contrat, on part, c'est ex nihilo. On s'assoit autour d'une table et on dit combien tu veux, combien tu demandes et combien t'auras. Point.
On dit rarement combien tu veux.
Oui, oui.
J'imagine qu'Emmanuel Berco, quand
il est sympa, cette émission,
combien
t'espères ?
On aurait dû inviter Philippe Martinez.
Combien on peut ?
Non. Alors, quand il y a des même des stars hollywoodiennes disent ne pas être aussi bien payées que que l'homme entre guillemets qui partage l'affiche avec elles. Ces stars hollywoodiennes, quand elles se mettent à une table, en effet, j'imagine que l'agent réclame quelque chose au nom de sa star, et inversement, le producteur accepte ou pas de le payer. Il y a pas une grille de salaire pour dire Nathalie Portman gagnera tant et Tom Cruise gagnera tant.
Comment procédez-vous, Emmanuel Berco, quand vous êtes à l'affiche d'un film, rôle principal ? Comment vous établissez cette conversation avec le producteur, justement, quant à votre rémunération ?
Mais moi, en tant qu'actrice, j'ai pas tellement été confrontée à ça, parce qu'il faut que ce soit à notoriété égale. Moi, quand je tourne avec Vincent Cassel, il est évident que je suis payée 4 fois moins que lui. Et ça me choque pas, dans le sens où sa notoriété est telle qu'il va ramener des gens dans la salle et moi pas.
Sauf pourquoi 4
et pas
3 ?
C'est à notoriété égale que c'est très choquant. Ouais. Mais moi, c'est comme réalisatrice que j'ai participé à un film à sketch où il y avait 6 réalisateurs et une réalisatrice et j'ai été payée 25% de moins que tous les autres réalisateurs, par exemple.
C'est pas mal.
Et ça, vous le savez. Non, mais ça,
dédicace à Julie.
Vous en tirez bien.
Et ça, vous le saviez au départ ?
Non,
ou
je l'ai appris. Je l'ai appris. Ce qui est terrible, je vais vous dire, c'était, je pense, il y a un peu moins de 10 ans, ça m'a même pas choqué sur le moment.
Mmh. Ouais.
Vous aviez intégré le fait que de toute
façon
c'était comme ça.
Je me suis dit, ou c'est peut-être que parce que je suis moins connue, fait, il n'y avait aucune raison que je ne sois pas payée comme les autres réalisateurs de ce film.
C'est extrêmement choquant, mais...
Et l'argument de notoriété, je le trouve intéressant, et en même temps, il n'est pas quantifiable. On ne peut pas... Parce que cette histoire est-ce que vous êtes 4 fois moins connu que Cassel, ou 3 fois moins, ou 5 fois moins ?
Ah oui, je sais, c'est difficile à estimer.
Je crois que c'est entre les deux.
Mais comment on évalue ?
Je crois que c'est 3,5.
Non, mais comment on évalue ça ?
Non, mais c'est pour ça que c'est des discussions qui sont...
Est-ce que c'est pas le temps d'antenne, le temps de présence à l'écran ? Est-ce que c'est pas...
C'est-à-dire qu'on fournit le même travail, mais on n'est pas payé la même chose.
Et tout ça réalisé par une femme, Maïwenn Lebesco, qui aurait...
Oui, mais ça, attends, comme je vous le dis, moi, c'est le système, quoi. C'est de l'art, mais c'est de l'art qui doit rapporter de l'argent, et c'est ceux qui font venir les gens dans les salles qui gagnent le plus d'argent.
Mmh. Enfin, il n'y a pas non plus un questionnaire à remplir à l'entrée d'une salle en disant pourquoi êtes-vous venu et pour...
Non, mais bien sûr, je vous parle de clichés. Ouais, voilà. Ce sont sur ces clichés-là que ça fonctionne, alors qu'on sait...
Ce qui est évident, c'est que des noms sont porteurs pour réunir des productions ou des coproductions ou des financiers ou des chaînes de télévision qui vont accepter d'apporter de l'argent en disant il y a un tel, j'ai lu le scénar, j'ai pas encore vu le film, mais j'apporte l'argent parce que je sais que la notoriété
Voilà. Et des fois, ça va à l'envers. Ils disent non, on peut pas parce qu'il y a personne de connu.
Ouais. Exactement. Mmh. Aussi.
Et sur
aussi,
vos films, vous, quand vous réalisez, vous êtes attentive à ça quant à la distribution de l'argent ou c'est pas du tout, c'est pas un sujet de réalisateur.
Oh, si, je suis très attentive à ça. Déjà, je refuse qu'un acteur soit payé plus que moi.
Que vous, la réalisatrice.
Ouais, parce que moi, je passe 3 ans sur mon film et que lui va tourner 20 jours et que je trouve extrêmement choquant qu'un acteur gagne plus d'argent que quelqu'un qui a travaillé 3 ans. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, de toute
même
façon, les gens...
Même qu'il mange en premier aussi. Hein? Vous refusez qu'il mange en premier.
À la cantine. Non, mais moi, je trouve ça... Ouais.
Et puis après, je fais pas des films très chers, donc les gens sont pas payés très cher non plus, mais c'est sûr que les choses... J'essaye que les choses soient réparties d'une façon qui me paraît... intègre avec...
Justement, on va en parler. En 2013, Catherine Deneuve a été moins payée que vous. Ça, c'est Rufus Wainwright.
Oui.
Cette musique vous évoque
la fête.
Décidément, c'est vrai que c'est pas très gay tout ça. Moi qui adore danser sur la musique. Non, mais vous m'avez demandé une musique que j'écoutais à cette époque. C'est vrai que j'écoutais cette musique. La preuve d'ailleurs, elle est dans le film
Elle s'en va.
Auquel fait référence cette date. Elle s'en va, ce film avec Catherine Deneuve. C'est une musique que j'écoutais beaucoup et que du coup j'ai eu envie de mettre dans le film sans du tout de justification particulière.
C'est-à-dire vous faites une espèce de playlist
qui vous accompagne dans un film, mais parfois ça n'a rien à voir avec le film.
D'accord.
Mais ça ne m'empêchera pas de mettre la musique dans le film.
Et Catherine Deneuve, finalement, c'est un peu cette incarnation qui vous a suivi un peu toute votre vie, à toutes les périodes de votre vie. Et vous dites que c'était un vrai moteur. Que ce rôle a été écrit pour elle, rien que pour elle, sans elle, pas de film.
Oui. Oui, c'est vrai. Je dois dire quand même sur ce film, elle était payée plus que moi. Mais...
Ça va.
Non, mais j'avais pas encore ce principe.
Il y a des exceptions.
J'avais pas encore ce principe. Et là, c'était tout à fait normal. Et puis, c'est Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, elle échappe aux règles. Mais oui,
Vous avez payé votre fils ou pas? Parce qu'il est dans le film aussi.
Oui, mais ce qui est très drôle, c'est qu'il pensait qu'il avait gagné la même chose que Catherine. Et quand il a appris bien plus tard.
Il rigole beaucoup moins que
Il était très choqué.
Mais là, raison, finalement, pourquoi pas.
Bref, non, oui, Catherine, c'est Catherine, c'est quelqu'un qui, comme j'imagine tout le monde autour de cette table, nous accompagne depuis toujours. Moi, elle a énormément marqué mon enfance parce qu'elle a...
déménagé la semaine dernière, elle n'était pas là.
ça m'étonne d'elle. Elle a imprégné mon enfance et j'en reviens toujours pas que finalement ce soit quelqu'un que je connaisse et même que j'ai filmé. Ça reste pour moi de l'ordre du miracle, de la magie de la vie, mais c'est quelqu'un qui m'inspire, enfin que j'aime profondément, humainement, et qui m'inspire énormément dans mon travail.
Et que vous avez communiqué cette passion finalement à votre fils?
Non, c'est ça qui est beau, c'est qu'il l'a
tout seul.
Il l'a conçue toute seule passion. Ouais.
Parce qu'il voulait absolument une scène avec elle, jouer avec elle, c'est ça. Il y a pas quelque chose.
Non, ce qui s'est passé quand j'écrivais ce film pour Catherine, et c'est vrai que si elle l'avait pas accepté, je n'aurais pas fait ce film. Il m'avait juste dit, je m'en souviens très bien. Est-ce que je pourrais venir sur le tournage? Mon rêve, c'est de serrer Catherine Deneuve dans mes bras.
Voilà, quand même.
Ouais. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Il avait donc 10 ans. Il n'a pas dit je voudrais un autographe. Il me dit la serrer dans ses bras. Et j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis dit tiens, je vais écrire une scène pour un petit garçon.
Ouais, vous avez bien vu quand même.
Heureusement qu'il n'avait pas 20 ans.
Mais quand à 16 ans, il a demandé à tourner avec Cara Morgan, qu'avez-vous fait?
Je n'ai pas donné suite.
Voilà, c'est ça.
Non. Oui, voilà, l'histoire est partie comme ça.
Nous recevons François Lelore. Merci François de venir à ce micro. Vous avez été annoncé tout à l'heure par Emmanuel Berco. Vous êtes psychiatre, et écrivain. Vous avez publié en mars dernier le roman Hector et les lunettes roses, l'histoire d'un psychiatre qui voulait rendre ses patients plus heureux. Comment définir une dépression, puisque c'est l'un des sujets, la toile de fond de cette pièce Face à Face?
En fait, vous l'avez déjà défini tout à l'heure en disant effectivement que quand on est déprimé, on n'a plus envie de rien, on n'a plus d'énergie, on n'éprouve plus de plaisir, on a une idée triste de soi-même. Mais Emmanuel Berco a dit aussi qu'il y a aussi des suicides sans dépression. Alors, dans cette pièce, si vous voulez, c'est on voit cette psychiatre apparemment bien sous tout rapport, épanouie, et puis qui bascule très vite.
Ouais, on la voit pas venir.
Et en tout cas, je trouve que dans le temps dramatique, qui n'est pas forcément le temps de mon métier, qui est plutôt un temps long et progressif, dans ce temps dramatique, je suis à peine sûr qu'elle déprime vraiment. Je pense qu'elle a une espèce de crise existentielle où elle se dit « ma vie, finalement, n'a pas de sens ». Je n'ai plus de sentiments pour rien, etc. Et elle passe à l'acte rapidement. C'est pas tout à fait ce qu'on appelle la dépression où les gens quand même s'enfoncent progressivement.
Alors, ce que j'allais dire, c'est quels sont les symptômes et les différentes formes de dépression? Parce que se dire ma vie ne sert à rien, j'en ai marre de mon boulot ou j'en ai marre de la vie que j'ai, et ainsi de suite, c'est des sentiments par lesquels on peut passer sans forcément vivre une dépression.
Et j'en ai marre de moi aussi, puisqu'en fait, elle ne supporte plus ce qu'elle est. Mais c'est vrai que dans cette pièce, il y a des événements traumatiques passés. Alors, je vais pas faire de spoiler qui se révèlent dans les rêves.
De divulgateur.
Et puis, voilà, de divulgation. Et alors, il y a un événement traumatique qui est une tentative de viol et qui est d'autant plus traumatique qu'elle est un peu ambivalente vis-à-vis de ça. Et ça, c'est peut-être encore plus traumatisant. Ouais. Et puis, des événements sont passés. Et surtout, au début, moi, j'ai très ressenti ça en tant que psy. Si vous voulez, elle est une patiente extrêmement difficile. Ouais. Qui à la fois Maria. Lui dit qu'elle veut coucher avec elle et qui en même temps lui dit mais au fond vous ne servez à rien, vous êtes complètement inutile. Et ça si vous voulez, il y a des patients qui sont très déstabilisants parce que ils vont très mal, ils demandent de vous une aide absolue et un attachement total que bien sûr vous ne pouvez pas donner, en particulier ce qu'on appelle les patients borderline. Et à l'époque où Bergman écrit la pièce, la personnalité borderline, ça existait à peine, c'était à peine reconnu, mais clairement c'est une patiente borderline. Et donc, ces patients sont très éprouvants. Et en plus, parfois, ils ont un flair terrible. Et ils perçoivent votre faiblesse fondamentale. Donc là, elle se fait à la fois agresser, implorer, etc. Ouais. Elle est donc très secouée. Et puis après, tout va de mal en pis. Et là, cette tentative de viol. Bon, elle pense, à un moment, elles se sont attirées par un homme. Mais pour des raisons que je ne vais pas révéler, il s'avère que c'est une voie sans issue, si j'ose dire. Ouais. Et donc, tout s'enchaîne assez mal et assez vite. Donc, je comprends qu'à un moment, elles disent, enfin, en tout cas, dans une histoire dramatique, qu'elles disent, j'en ai assez de la vie et assez de moi aussi.
Et pour prendre un peu de recul par rapport à la pièce, quelles sont les différentes formes de dépression?
Oh, ben, il y en a, c'est comme un herbier, si j'ose dire. Il y a 36 formes. C'est-à-dire qu'il y a il y a des dépressions chroniques où les gens arrivent à fonctionner, mais on sont en permanence, disons, à 60%. D'ailleurs, souvent, on se reconnaissent pas déprimés. Et puis, il y a des dépressions dites réactionnelles, c'est-à-dire qui surviennent à la suite d'événements traumatisants ou de deuil, de choses comme ça.
Et puis alors, ou de contrôle, ou de suspicion de fraude fiscale, puisque c'est
par exemple, mais vous savez, il y a des gens qui se suicident après des contrôles fiscaux, au cours de contrôles fiscaux.
Non, il fait bien ça, la guillemets.
Oui, c'est régulier.
Il y a deux extrêmes. Il y a d'une part des dépressions, on va dire, qui vont être réactionnelles, et puis, c'est ce qu'on disait quand j'ai appris au début dans mes études, puis après, il y a des dépressions un peu plus biologiques où les gens, malheureusement, une sorte de vulnérabilité à la dépression et périodiquement dans leur vie vont faire des accès dépressifs, même à la limite quand tout va bien. Mais alors en fait, entre les deux, il y a tous les intermédiaires. Je dirais qu'on a tous une certaine vulnérabilité plus ou moins forte. Après, on a une éducation qui corrige un peu le tir, ou au contraire, vous fragilise encore un peu. Et puis après, il y a la vie avec ses événements. Donc chaque dépression est comme un cocktail, si vous voulez, de votre passé éducatif, de votre biologie, et puis de ce qui vous arrive.
Est-ce que la pire des dépressions n'est peut-être pas celle justement que l'on ne reconnaît pas? On ne se dit pas dépressif et on ne la soigne pas?
Oui, absolument. Et en plus, quand on est déprimé, on est essentiellement pessimiste, donc même l'idée qu'on puisse vous aider, les gens disent toujours, mais tiens, il faudrait vraiment que tu ailles consulter, mais ça va pas changer mes problèmes, de toute façon ça sert à rien, de toute façon les médicaments, donc si, parfois c'est alors, très difficile d'amener
aider,
les gens.
Alors comment aider ces personnes justement qui ne se rendent pas compte qu'elles pourraient être aidées ou qu'elles pourraient sortir de cet état?
Souvent, c'est quand même l'entourage qui arrive à convaincre, à dire quand même essaye.
On
ne
peut pas forcer quelqu'un à consulter.
Alors parfois, il arrive que les gens aient tellement mal et sont suicidaires qu'on les interne. Moi, il m'est arrivé de signer un certificat d'internement et c'est même pour un ami. En plus, c'était pas en tant que psychiatre parce qu'il allait vraiment aller commettre le pire. Mais souvent, c'est qu'il y a une pression d'entourage de la famille, et parfois un bon moyen, c'est de dire, écoute, si tu veux voir un psy, c'est pas un engagement, mais vois-le au moins une fois pour avoir un petit peu son avis. Mais souvent, c'est quand même l'entourage qui aide les gens qui ne veulent pas se faire aider. Il y a aussi des gens, parce que quand même maintenant on en parle beaucoup plus dans les journaux, dans les médias, dans cette émission, qui quand même réalisent que ah oui, ça existe la dépression et peut-être qu'effectivement on peut m'aider.
Oui, il faut pas avoir peur d'en parler. En tout cas, ça existe. Ça se soigne? Toutes les dépressions se soignent?
Oui, enfin, on a, il y a à la fois des médicaments, des psychothérapies. Oui, toutes les dépressions se soignent. Alors après, c'est la psychiatrie.
C'est chimique. Comme... C'est des médicaments suffisent ou il faut simplement parler, échanger, être écouté?
C'est les deux. Enfin, toutes les études. Alors, chaque dépression est un peu unique, mais toutes les études montrent que ce qui marche le mieux, surtout pour empêcher les rechutes, c'est l'association médicaments plus psychothérapie, si vous voulez.
Ouais.
Ça semblerait que ça marche un peu mieux que médicaments seuls ou psychothérapie seule. Mais là encore, ça dépend.
Ouais. On parle de traitements à base de nouveaux traitements à base de LSD ou d'ecstasy.
Alors oui, enfin ça, à mon avis, c'est enfin parfois si vous voulez, il y a des modes comme
la
ça.
Qui, aussi. Non, c'était pas vraiment une ordonnance au cas où.
Il y a un traitement. Il y a un traitement. Il y a la kétamine. La kétamine, ouais. C'est une sorte d'anesthésique.
Aussi.
Enfin, c'est. Cheval. C'est un médicament effectivement dur à manier, qui est utilisé de manière récréative d'ailleurs, parce que ça donne un sentiment de joie, de confiance en soi, etc. Mais on s'aperçoit aussi que c'est probablement le seul enfin, dans un milieu médical. Que c'est un antidépresseur qui tout de suite améliore l'humeur. Alors que la plupart des antidépresseurs qu'on a, ils mettent 15 jours à agir. Ouais. Donc quand quelqu'un va très mal, c'est un peu embêtant de dire, je vais vous donner ce traitement, mais de toute façon, vous n'allez pas voir grand-chose comme changement avant 15 jours.
Il y a le chocolat aussi, c'est plus quotidien, c'est plus
facile. Et puis le soutien de l'entourage, c'est quand même un truc fondamental. Mais quand les gens sont trop déprimés, parfois ils ne supportent même plus leur entourage.
Est-ce qu'il y a un côté... un atavisme dans la dépression?
Oui, bah c'est comme tout. Hein. Je veux dire là, c'est-à-dire en France, si vous avez des asthmatiques dans votre famille, il y a plus de chances que vous le soyez. Bah, c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont fait des dépressions dans votre famille. Statistiquement, vous avez un risque. Peut-être pas du tout. Hein. Peut-être vous avez pas du tout pris cette partie-là de gène, mais parfois vous l'avez.
La dépression donne de l'asthme.
Dans la.
Oui, c'est ça. T'as bien compris toi.
Ok, super.
Et dans la pièce d'ailleurs, là c'est pas une grande révélation. On voit que le père de cette psychiatre était alcoolique, si vous voulez. Donc il y a quand même des liens aussi entre dépression, alcoolisme. Elle a peut-être déjà...
Ça peut concerner Daniel Morin, ça nous intéresse.
Mais non seulement, l'alcoolisme, ça joue à deux niveaux. C'est d'abord d'avoir un père alcoolique, ça peut avoir plein d'inconvénients et un peu quand même gâcher votre enfance.
Ouais.
Et d'autre part, bah, ça traduit... Tout le monde boit de l'alcool, tout le monde ne devient pas alcoolique. Ça traduit aussi probablement qu'il y a une faiblesse, vulnérabilité, une prédisposition. Enfin, c'est une hypothèse que je fais comme ça, mais c'est juste pour montrer un exemple que tout se mélange.
Est-ce qu'on peut anticiper et prévenir une dépression?
Bah, la première, en général, non. Enfin, les gens s'enfoncent dedans sans trop s'en apercevoir. Après, quand les gens ont été traités pour une dépression, oui, c'est très important qu'ils connaissent. Ils connaissent en général les symptômes et qu'ils aillent consulter, qu'ils aillent demander de l'aide rapidement. Il y a beaucoup de travail en ce moment qui est fait sur ce qu'on appelle la prévention des rechutes. Parce qu'au fond, quand on a fait une dépression ou un épisode anxieux, ou là encore, je vais prendre la comparaison, une crise d'asthme, enfin bon, il y a plus de chances qu'on en refasse une autre. Et donc, quand on a vraiment pris conscience de ce que c'était, bien, on peut chercher de l'aide et éviter justement le nouvel accès dépressif total. Enfin, je veux dire,
Il y a des tranches d'âge où ça arrive plus fréquemment selon les chiffres, ou est-ce qu'un genre est plus touché que l'autre?
Alors, les tranches d'âge, j'ai pas de vision claire récente.
Par exemple, se dire on arrête de travailler, que ce soit parce qu'on est au chômage ou parce qu'il y a la retraite, est-ce que ce sont des périodes clés où il y a une bascule, un risque de
bascule? Mais tout sentiment de perte, évidemment, vous expose un peu plus à devenir déprimé. Donc la perte de son statut, la perte de son job, la perte d'une personne qu'on aimait.
Un proche, oui.
Tout ce qu'on perd finalement ne vous fait pas de bien. Autrement, oui, les femmes, enfin en général, les femmes ont plus de troubles anxieux et dépressifs. Alors pourquoi
Il y a de moi aussi qui en est pour beaucoup. Quand même. Je suis la femme de plus de 50 ans.
Non, il fait du bien à beaucoup de femmes finalement. Toutes celles qui ont plus de 50 ans.
Alors la question c'est pourquoi elles ont plus de troubles anxieux et dépressifs. Il y a des gens qui pensent que c'est un petit peu le fruit de l'évolution, c'est que si vous voulez les hommes qui étaient quand même des chasseurs ou des guerriers, c'est important d'avoir une espèce, pas d'indifférence émotionnelle, mais je veux dire que si vous vivez certaines formes de violence, vaut mieux ne pas être très sensible. Les femmes, en revanche, ont été un peu évoluées pour élever les enfants, pour prendre soin des petits. Et donc, au contraire, il faut une grande empathie, il faut une sensibilité, etc., pour l'enfant. Et peut-être c'est une sorte de by-product, si j'ose dire, de cette sensibilité et d'empathie plus grande, qu'il y ait aussi
conséquences
sur le côté, pardon, que les femmes, finalement, ont peut-être un peu plus de risques, ont clairement plus de risques d'être anxieuses ou déprimées.
Mais ça, peut-être faire attention parce que ça peut justifier les inégalités aussi. L'homme dans l'action et la femme dans la sensibilité. Ça a justifié beaucoup des fondements de la société patriarcale. Ça.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous, c'est des notions difficiles à manier, c'est-à-dire qu'à la fois, on doit bien reconnaître qu'il y a des différences, et en même temps, il faut veiller à ce que ces différences ne servent pas à une sorte de ségrégation.
Ouais. Clairement. Peut-être le meilleur conseil, François Lelor, qu'on puisse donner à ceux qui sentent venir une dépression, c'est de lire l'estime de soi, parce que s'aimer soi-même, c'est peut-être le premier pas à faire pour éviter une dépression.
Oui,
livre que vous aviez co-signé avec Christophe André.
Absolument.
En 2008.
Oui, l'estime. Oui, c'est vrai. Quand on a une bonne estime de soi, on diminue un peu ses risques de dépression. Enfin, on diminue ses dépressions, mais
visiblement pas totalement vu le ton sur lequel vous me répondez.
Pas totalement.
Merci François Lelor d'être venu à ce micro. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Nous avons des métiers formidables.
Bah oui, la radio c'est super. Hein, on travaille en vieux pull. Le public nous applaudit même quand on n'est pas drôle. Alors qu'avec leur redevance, c'est eux qui nous financent. Donc à la moindre erreur, ils devraient nous péter la gueule. Mais tous les métiers sont géniaux, sauf un, député La République En Marche. Cette semaine, ils ont pris cher.
On en parle après les infos de midi. C'est la bande originale, merci de nous rejoindre avec Elia Kadobudeli, Daniel Morin, Albert Albour, Frédéric Sigrist, Tanguy Pastureau,
bonjour.
Alexis Le Rossignol,
bonjour.
Et notre invité Emmanuel Berco. Emmanuel qui sera au théâtre à partir du 16 janvier prochain, mercredi, et ce pour 35 représentations exceptionnelles avec cette pièce d'Ingmar Bergman qui s'appelle Face à Face. Et il y a dans cette pièce, on le rappelle, l'histoire d'une psy qui se retrouve confrontée à un moment violent, choquant de sa vie puisqu'elle va subir un viol. Elle tombe en dépression, elle envisage le suicide, elle passe à l'acte. Il y a même cette espèce de voyage où on ne sait pas trop d'ailleurs s'il y a entre la vie et la mort, si on est dans la réalité ou dans ses pensées avant le dénouement final de la pièce. Mais il y a des silences aussi qui sont pesants dans cette pièce. Comment les gérer? Autant dans les didascalies d'un Phédo, il y a le nombre de portes qui s'ouvrent et qui se ferment, j'imagine que dans celle d'une pièce de théâtre de Bergman, il n'y a pas les secondes de silence.
Si, c'est assez extraordinaire.
Ah bon?
Ouais. Dans les didascalies du texte de Bergman, il est tellement précis que ça contient déjà presque toute la direction d'acteur.
D'accord.
Et y compris les silences, alors pas avec leur durée, etc. Puis après, c'est une adaptation, nous, on réinterprète, mais...
Dans celle que j'ai vue, Yescali, il y avait les odeurs, il y avait...
Oui. C'est incroyable. Et des plein de choses qu'en fait, on ne peut pas traduire en images, ni en son, mais que pour l'acteur, qui est très enrichissant, qui est sa matière. Mais les silences... Bah, s'ils sont beaux, ils sont aussi forts que les mots, si ce n'est plus. Donc, c'est vrai que les moments de silence dans la pièce, ils sont très importants. Dans le film, c'est incroyable les temps de silence qu'il y a.
Vous avez beaucoup travaillé.
On peut pas faire au théâtre, hein, mais
ouais. Vous avez beaucoup travaillé en regardant le film aussi.
Non, pas du tout. Et à vrai dire, pas volontairement, pas du tout pendant longtemps, parce que ça fait longtemps que ce projet quand même est en gestation. Et puis j'ai eu envie de le voir parce qu'il passait à la Cinémathèque et que c'était une chance inouïe de le voir sur grand écran. Très peu de gens ont vu ce film, il n'est même pas sous-titré, il n'y a pas de DVD, il n'est pas sous-titré en français. Et donc j'ai eu la chance de le voir, c'était 4 épisodes parce que c'était un film pour la télé. J'ai eu la chance de le voir et voilà, c'est un film, ça n'est pas transposable au théâtre tel quel, c'est un film qui est presque exclusivement en gros plan et où chaque émotion effleure sur le visage de Liv Ullmann qu'interprète Jenny. Bon, c'est des choses qu'on ne peut pas restituer au théâtre, il faut que ça passe davantage par le corps. Mais les silences, c'est quelque chose qui peut quand même prendre vie au théâtre.
Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, être député en marche en ce moment, c'est très compliqué.
Oui, c'est encore moins drôle à faire comme métier que bijoutier pour entrecôtes pour les Ribéry ou Blaise Matuidi. Il y a un an et demi, ils étaient tout neufs, tout frais, ils sentaient le savon, ils se prenaient en photo devant l'Assemblée émerveillés. 20 minutes plus tôt, ils étaient ostéopathes ou comptables. Bah, Macron, à la base, n'avait personne, à part Bayrou, Colomb et Richard Ferrand. La République en marche, c'était un EHPAD. Donc les premières personnes nées après 71 qui se sont présentées, il leur a dit « Wesh les gros, bienvenue dans la team, ici on est cool, on est connecté, la France on la prend, on la retourne, fuck la CGT et tous les conservatismes. » Et les députés vivaient un rêve éveillé, tel Peter Doherty s'y gagnait un jeu concours, un séjour à Medellin. Mais 16 mois plus tard, le rêve est devenu un cauchemar, pire que celui où on arrive au collège avec ses chaussons, pire que celui où on arrive au collège avec les chaussures de Nagui. C'est un enfer. Premier épisode de cette déconfiture, Joachim Sonforget, le député des Français de Suisse. Donc techniquement, c'est un professionnel du tennis tricolore. Pendant les vacances, a pété un de ses câbles, même chez la Fibre d'Orange, il n'avait jamais vu ça. D'abord, il a écrit sur Twitter à Esther Bembassa, sénatrice Europe Écologie, les Verts, ça existe encore, ils sont trois, protégés par des gardes comme les rhinocéros en Afrique. Il lui écrit qu'elle a un pot de maquillage sur la tête, la REM lui tombe dessus, il se photographie avec un gilet pare-balles, puis avec un sabre de Jedi, puis avec la peluche du facochère Pumba dans Le Roi Lion. Bref, si le CV d'Ariel Dombal prenait vie, il apparaîtrait sous la forme de Joachim Sonforget. Sur Twitter, il a écrit des choses incompréhensibles comme « on va pas passer notre vie à sucer des » et là, il y a un emoji licorne. Sucer des licornes. Je vois pas. J'ai appelé un ami qui bosse à la chaîne Equidia pour lui demander si c'était un fantasme dans le milieu. Il m'a dit non. Un parcours de masturber un poney, ça c'est notre truc, a-t-il ajouté. Bref, il est devenu fou. Il a quitté la REM, a fondé son propre parti et Benjamin Griveaux, alias La République en personne selon lui-même, a déclaré « Forget Forget » qui lui vaudra à vie l'absence de toute citation dans quelques recueils de bons mots que ce soit. Ce que Oscar Wilde avait su que derrière il y avait Griveaux, il aurait pondu au maximum 4 aphorismes en se disant rien qu'avec ça la concurrence est cuite sur 200 ans. Mais non, mais être député la REM, c'est affreux. Quand on ne devient pas fou, on est menacé parce qu'ils sont aussi détestés que les salsifis dans une classe de CM2 et donc reçoivent des lettres anonymes. Alors cette semaine, ça n'a pas arrêté. Il y a d'abord eu Jean-François Mbaye, député en marche du Val-de-Marne. Il a eu une lettre. C'est dit, tiens, c'est peut-être la réponse de mon courrier au Père Noël. Je lui avais demandé un boulier pour compter le nombre de gens qui kiffent encore Macron. Mais déception, il était écrit, on va te mettre une balle dans la tête. Hein, tous les matins, on se fait beau, on met des crèmes, on se rase. À partir de 40 ans, on s'épile le nez, les oreilles, parce qu'on a même des poils qui poussent dans l'iris des yeux. Et là, des gens veulent tout gâcher en y mettant une balle. Mais moi, j'en ai parlé à ma conseillère Sephora, elle m'a dit, c'est n'importe quoi.
Bon, on peut revenir à cette lettre, s'il vous plaît, qui visiblement est également raciste.
Oui, parce que Mbaye est noir. Et son interlocuteur a cherché à lui faire mal. Hein, il a écrit « Les Africains sont feignants, juste bons à faire des gosses et à se multiplier comme des rats. » Donc déjà, il y a répétition. Et ensuite, c'est faux. Regardez à Paris, les rats se multiplient 1000 fois plus vite que les Africains. Je suis désolé, c'est un sujet sensible, mais pas une fois un Africain n'a essayé de bouffer le pipito de mon goûter que j'avais posé sur le banc du square pendant que je lisais Marc Lebdo. Kant. Et a priori, il n'y a pas un rat qui essaye de vendre à la sauvette des tours Eiffel en plastique. Dans sa lettre, la personne raciste qui a peut-être ses qualités par ailleurs, mais là on n'arrive pas à les cerner, menace aussi Laetitia Avia et Hervé Berville, les deux autres députés noirs de La République En Marche. Ils n'avaient qu'un timbre, il y avait trois noirs, il était obligé de faire un package. Stéphane Viry, député de la REM des Vosges, a lui aussi reçu cette semaine une lettre de menace. À l'Assemblée, il a posé une question sur les sangliers et un pro-sanglier lui a écrit, je cite, « Foutez la paix aux animaux et allez engrosser votre bonne femme ». Ce qui est curieux, c'est d'écrire des choses pareilles et d'utiliser quand même le « vous ». Hein, ça montre une certaine éducation. Si ça se trouve, c'est Charlotte de Turckheim qui s'est fait retourner la tête par Émeric Caron, pro-animaux. Elle a aussi envoyé une lettre à Francis Cabrel pour lui dire que depuis 15 ans qu'il a rasé sa moustache, tous les 12 mois, 4 millions d'acariens sont sans abri. Marie Lebec, députée la REM des Yvelines, a eu sa lettre de menace de mort avec écrit « Tu seras pendu bientôt », sans plus de précision. Comme si une députée s'était dispo n'importe quand pour une pendaison. Enfin, les gens travaillent, monsieur. Les gens travaillent. Aurore Berger, autre député des Yvelines, a eu la sienne. Même écriture que celle pour Lebec. Il est écrit « Tu seras décapité sur place ». Là encore, à l'époque de la géolocalisation, c'est vague. Mais le psychopathe est brouillon. Enfin, Bruno Castel, député en marche de l'heure, a reçu sa menace de mort. Hein, également par courrier. À la poste, ils n'ont pas autant bossé depuis la période des vœux en 84. Hein, on lui écrit qu'il sera attaqué au fusil d'assaut. Bref, maintenant, quand un député voit arriver le facteur, il a une grosse montée de sueur. Hein,
j'ai préféré en rire, mais tout ça est dur. On écrit à des gens qu'on va les buter. Or, la mort, ça vaut pas la vie, comme on dirait à la cérémonie Miss France. Alors vite, un fonds gessif pour tous ces gens, parce que député En Marche, c'est trop risqué.
Merci, Tony Pachon.
La bande originale, Lady, sur France Inter.
Face à face, le sujet, c'est aussi la mort. Emmanuel Berco, dans cette pièce, la vie, la mort, se retrouver face à soi-même, à ce que l'on veut réellement. Il y a une morale à cette pièce, c'est-à-dire ceux qui sortent de la pièce apprennent des choses peut-être sur eux.
Oh oui, je pense. Bah, c'est une expérience émotionnel pour le spectateur. D'ailleurs honnêtement, j'ai rarement il y a une qualité d'écoute dans le public que j'ai rarement vu, enfin expérimenté moi,
et qui est importante au théâtre, parce que la moindre personne,
ah oui, mais là,
qui
c'est
touche
vraiment
le moindre
très
portable qui vibre,
non, c'est vrai que c'est terrible,
c'est gênant,
mais là l'écoute, ouais, est phénoménale. Et je pense que c'est parce que
le sujet, je pense,
le sujet, ouais, et chacun se projette dans le personnage, ouais, de Jenny et traverse tout ça avec elle. La question de la mort est évidemment centrale, mais elle était centrale pour Bergman aussi. Mais il faut pas que les gens aient l'impression que la pièce est mortifère, morbide, etc. Non. Hein, ça reste
gay, joyeux.
J'ose pas dire gay,
non,
joyeux.
C'est pas, non,
soyez honnête. Non, c'est pas gay, joyeux. Non, c'est pas gay, joyeux, mais c'est pas non plus un truc dont
on sort
complètement.
On n'est pas déprimé. Oui, voilà, c'est ça.
Non. La question de la mort, avoir peur de mourir. D'ailleurs, c'est dans le début de la pièce, ouais, un des personnages dit « Est-ce qu'on peut se suicider par peur de mourir ?» mm-hmm. Et comment on fait pour vivre quand on a sans cesse la peur de mourir, ce qui était le cas de Bergman, je crois. Donc, c'est des questions existentielles qui sont passionnantes.
Vous avez choisi cette pièce, on vous a choisi pour cette pièce. Comment le projet s'est monté ? Vous parliez tout à l'heure d'une gestation, donc ça a été long.
Oui, parce qu'au théâtre, en fait, je ne sais plus, j'ai dû rencontrer le metteur en scène il y a presque 3 ans. Au théâtre, on prévoit les choses extrêmement à l'avance, bah parce qu'il faut trouver les salles et tout ça s'organise plus d'un an, parfois deux ans à l'avance.
Mais
donc ça
comment
fait
savoir 3 ans à l'avance que vous n'aurez aucun projet de film, et de ben, réalisation
en fait, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Dès que j'ai su, donc peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans, les dates de cette pièce, bah, j'ai fait en sorte de n'avoir rien
de bloquer
toute cette période pour la pièce, parce que je trouve qu'elle en valait le coup. D'abord, c'est vraiment un rôle magnifique. Et c'est parfois l'avantage qu'a le théâtre sur le cinéma, c'est qu'au théâtre, on nous propose des textes d'une force et qui nous donne une expérience d'interprétation qui est beaucoup plus forte que n'importe quel scénario qu'on pourrait nous proposer plus couramment. Donc c'est des choses à côté des, enfin c'est des choses qui sont précieuses quoi pour les acteurs. C'est pour ça que beaucoup d'acteurs de cinéma aménagent du temps pour faire du théâtre.
Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu sur les planches. L'année dernière, vous étiez quand même sur scène dans Dîner en ville, un texte de Christine Angot. Là aussi, un texte très très fort, c'était à la Colline. Mais avant Dîner en ville, ça faisait quelques années. Alors,
oui,
bon, il y avait beaucoup de cinéma, ouais, beaucoup de réalisations, beaucoup de rôles. Mais est-ce qu'il y a un élément en particulier qui a déclenché, au-delà de l'envie, un retour comme ça au théâtre, parce que vous aviez joué par le passé
En fait, le théâtre, c'est d'abord ma première passion et c'est ce que j'ambitionnais. Moi, je voulais être une petite actrice de théâtre.
Une petite actrice.
Oui, enfin, je veux dire, j'avais pas des rêves de notoriété ou je sais pas quoi. Je voulais jouer, faire du théâtre, jouer.
Vous vouliez pas être payée comme Vincent Cassel.
je savais même pas que ça existait.
En tout cas, il est clair que les salaires, les cachets au théâtre.
Ah non, mais au théâtre, c'est en commune mesure. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans le même monde. Mais et puis j'ai toujours eu envie de faire de la mise en scène de théâtre et le cinéma est arrivé et m'a happé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai jamais lâché cette idée. Mais après, quand on quitte le théâtre, c'est comme un...
C'est un réseau, un milieu aussi,
voilà,
en soi.
C'est comme la radio, c'est comme le cinéma, c'est un réseau. Et je pense que le prix à Cannes que j'ai eu pour le film de Mai Wen, Mon Roi et tout ça, je sais pas, envoyer un signal qui fait que je sais plus, c'était incroyable. En 15 jours, je crois que j'ai eu 4 propositions de théâtre.
Génial.
Alors que j'en avais pas eu depuis 10 ans.
Et pourquoi par rapport à ce film d'après vous ?
Ah non, je sais pas du tout. pourquoi par rapport à ce film, mais en tout cas, les gens se sont dit, bah tiens,
vous avez créé une envie.
Elle, au théâtre,
créer
une envie,
c'est ça. Face à face, ça sera à partir du 16 janvier prochain au théâtre de l'Atelier à Paris. Voici le dépôt de bilan de Frédéric Tigris.
Alors une fois n'est pas coutume, Nagui, je vais faire un vrai dépôt de bilan, celui de l'homme avec un petit H. Car cette semaine, en entendant la sphère médiatique reprocher à Yann Moix, le Welbeck Leader Prize, sa sortie sur les femmes de plus de 50 ans, finalement il a dit ce que le cinéma, la télévision et la publicité nous démontrent chaque jour, c'est-à-dire qu'on n'est quand même pas hyper chaud pour vous montrer le corps d'une femme qui vieillit, eh bien en entendant cela, j'ai pensé... Et le corps des hommes de 50 ans.
Ah, merci.
Mais à quel moment on en parle ? Parce que je sais qu'on avait dit pas le physique, mais je connais beaucoup d'hommes de 50 ans et plus, et comment dire ? Leur corps, ça ressemble plus aux ruines de Palmyre après le passage de l'État islamique qu'à l'époque de son élection au patrimoine historique de l'UNESCO. Quand t'as 50 ans, t'as plus de cheveux dans les oreilles que sur le crâne. T'es rarement dans le classement GQ des hommes les plus sexy de la planète. T'sais, t'as toujours un mec qui dit « Oh mais nous on vieillit bien, Idriss Elba ». Oui, ok, pour un Idriss Elba, combien d'Yves Calvi ? Quand ton sexe, c'est un minaret qui n'apparaît qu'à certaines heures derrière ton bide, c'est assez rare qu'on fasse des poèmes de ta plastique. Moi, à un moment, j'ai fait modèle de nu pour des étudiants en art plastique, justement. Eh bien, la glaise était plus ressemblante... Elle me ressemblait beaucoup plus dans le pot que quand ils l'ont transformé. Mais étonnamment, ce flétrissement pour un homme, ce moment où on se met à ressembler à du beurre fondu, on n'en parle pas. D'ailleurs, l'homme a des stades intermédiaires avec son corps que la femme n'a pas. Moi, il y a 5 mois, je faisais 120 kilos, l'équivalent de 3 Nagui et 1,5 Gérard Larcher. Bon, eh bien, avant d'accepter l'évidence qui était que j'étais gros. Bah, oui, un jour, j'ai accepté d'être honnête avec moi, je me suis regardé, je me suis dit, oh merde, Fred, là t'es gros. Pourtant, il y avait des signes avant-coureurs. Dans le métro, quand j'étais assis sur un strapontin et que mon voisin partait, le strapontin se rabattait pas. Non, mais c'est vrai, tu dis, c'est bizarre, pourquoi il remonte pas des fois, je marchais à côté de ma femme et mon ombre, elle avait plus de poitrine qu'elle. Quand j'achetais des vêtements, il y avait tellement de X avant le L, c'était presque un mot. C'est ça ma taille. J'étais essoufflé en montant un escalator. Et bien avant de réaliser dans quel état j'étais vraiment, je suis passé par plein de phases. Parce que les hommes ça vous passe. Ils se disent pas, je me laisse aller. Non, il se trouve des trucs. D'abord il y a eu, il a des poignées d'amour. C'est joli, il a des poignées d'amour. T'as l'impression d'être une valise Samsonite pleine de sextoy. Ensuite j'ai eu droit, oh Fred il est baraque. Michael B. Jordan dans Creed 2, lui, il est baraque. Eh ben, vous l'auriez mis à côté de moi, même à 4 grammes dans le sang, dans l'obscurité d'une boîte à 3 heures du matin, on nous aurait pas confondu. C'était pas exactement le même baraque. Ensuite, j'ai été bien portant. Et tu te dis que le lexique qui entoure un homme qui enfle, c'est hyper positif. Tout le monde a envie d'être bien portant. T'as personne qui se réveille en disant, oh, moi j'aimerais bien être mal portant aujourd'hui. Je vous le dis, les hommes ont une sorte de sauf-conduit quant à la taille de leur cul, c'est dingue. Dans un film, on peut tranquillement te mettre un Olivier Marshall ou un Depardieu et te faire croire qu'il a une histoire d'amour avec une Léa Seydoux. Tu fais la même chose en sens inverse, tout le monde se demande s'il n'est pas trop tôt pour faire un biopic d'Emmanuel Macron. Parce que c'est des hommes. Non mais si, c'est vrai, c'est parce que c'est des hommes pour lesquels il est socialement admis que leur talent ou leur charisme transcende évidemment leur physique. Les hommes, c'est la seule communauté capable de faire abstraction de la gueule qu'ils ont. Moi, à l'adolescence, j'avais des amis qui ne ressemblaient à rien. Et ben, tu les écoutais, ils mettaient des notes aux filles. Ils disaient, j'ai mis 6. Elle a un 7. Si elle est gentille, peut-être elle a un 8. Et tu sais, au bout d'un moment, tu les regardais, t'as dit, mais tu t'es vu? T'as un physique désigual. Clairement, on a mis des trucs qui n'allaient pas ensemble. Et depuis que j'ai perdu du poids, je m'en suis rendu compte, j'ai perdu du poids parce que je suis quelqu'un de discret. Ah bah, y a plein d'hommes de 40 ans et plus qui viennent me voir. Mais tu sais, quand y a moins de monde, ils viennent te voir comme ça, t'as l'impression qu'ils veulent t'acheter de la drogue. Fred, je peux te parler là? D'ivoire, t'as fondu quand même.
T'as fait comment?
Comment ça se passe? C'est légal? Tu peux me dire? Et tu dis, pourquoi on n'en parle pas plus ouvertement? Je vois, les hommes sont complexés par leur corps, mais tu sens que c'est encore un truc un peu tabou, teinté d'une trouille vis-à-vis de leur sexualité, parce que très vite, c'est ouais, mais enfin, c'est faire attention à son apparence, ouais, les fringues, tout ça. C'est un peu gay, quoi. Et t'as envie de leur dire, mais c'est pas parce que tu vas rentrer dans du 42 qu'un mec de 42 ans va te rentrer dedans, tu sais. Ça ne change pas ta sexualité, quoi. C'est juste que tu peux mettre plus de fringues. Et finalement, le plus choquant dans les propos d'Yann Moix, c'est pas ce qu'il dit sur les femmes, c'est surtout ce que les hommes ne s'avouent pas.
Merci. Allez, Frédéric Tigris.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Emmanuel Bercot est au théâtre à partir du 16 janvier prochain et pour 35 représentations exceptionnelles. Depuis le 9 janvier, vous êtes à l'affiche également de l'heure de la sortie de Sébastien Marnet.
Vous incarnez une prof de musique très très chouette.
Un peu délirante.
Ben ouais.
Aux côtés de Laurent Lafitte et Pascal Grégory, vous avez tourné le premier long métrage de Zoé Vitoc qui s'appelle Jumbo.
Ouais.
Vous y faites quoi ?
Ouh là là !
Qu'est-ce qu'il y a ? Vous en parlez ?
Si, si, bien sûr que si. C'est un projet très original qui est l'histoire d'une jeune fille qui est objectophile. Vous savez ce que c'est ?
Non.
C'est quand on tombe amoureuse, mais c'est pas une blague, d'objets, comme une femme qui a épousé la Tour Eiffel ou des gens qui tout d'un coup projettent des sentiments amoureux très forts sur un objet. Et cette jeune fille est amoureuse d'un manège, les grands manèges à deux foires qui font peur. Et je joue la mère complètement excentrique de cette jeune fille qui est dépassée par la maladie, entre guillemets, de sa fille.
D'accord. Ouais, non,
je vous ai dit que c'était original.
Non, mais ça existe.
Ah oui, oui, ça existe. Ah oui, il y a des documentaires fascinants.
La femme qui a épousé la Tour Eiffel.
Oui, il y a des documentaires fascinants.
D'accord, ok, non, mais c'est inquittant. Vous allez jouer, vous avez
temps,
joué.
T'es tranquille, je veux dire, t'épouses la Tour Eiffel.
T'épouses la Tour Eiffel.
Oui, question de fidélité, t'es bien. Hein.
T'es en couple, mais personne.
T'as de la visite,
socialement. Socialement,
pas jaloux. Pas jaloux, faites pas jaloux.
Ouais, mais c'est pas grave.
Vous avez déjà tourné ou vous allez tourner dans le film de Cédric Kahn ?
Oui, c'est fait, ça, c'était cet été.
Joyeux anniversaire.
Ouais.
Et là, vous y êtes pour quel rôle ?
Alors là, c'est... Bon, je joue encore une dingue. Hein. Là, le truc exceptionnel, c'est une histoire de famille. Ça se passe sur le temps d'une journée. Et je joue la fille de Neuve. Et ça, vraiment, ça, c'est le rêve, mais absolu. D'accord.
Pourquoi vous dites je joue encore une dingue ? On vous propose que des rôles de dingue ?
Ben oui, je trouve.
Pourquoi vous inspirez ça au
réalisateur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Moi, j'ai bien une petite idée, mais est-ce qu'on en parle ?
Non, mais si. Vous allez revenir à Ressent Chaud.
Non, mais c'est vrai que. Non, mais quand vous. Enfin, je trouve que vous avez cette propension assez incroyable à incarner une forme de folie, mais pas une folie délirante. Je pense un truc.
Elle pourrait tout faire, surtout. Mais
je dis pas que. Je dis pas que c'est pas le cas. Je
si
dis simplement
dis
que. Dans certains rôles. Non, mais je vous ai trouvé. Non, mais c'est assez troublant, je trouve, qu'il y a un truc hyper troublant. Je sais pas si vous en avez conscience ou pas. Dans l'incarnation, c'est-à-dire qu'on a vu plein d'autres films avec des personnages qui doivent incarner une forme de folie, mais je trouve que il y a toujours quelque chose qui sonne un peu faux. Et vous, je j'arriverai pas à l'expliquer, mais il y a.
C'est vraiment folle.
Non. Il y a un truc hyper juste dans une folie qui nous semble complètement qu'on peut rencontrer.
Et qui se rapproche plus d'une forme de liberté que de folie furieuse.
Mmh. Ça, on avance.
Okay. On avance, hein.
Non, mais je sais pas.
Je vais sortir d'ici, je vais avoir compris autant de choses que Jenny
je sais pas
en sortant de la pièce.
Si vous posez cette question-là aussi, j'imagine, puisqu'on vous propose souvent des rôles.
Oui, bien et sûr, je me pose la question, mais c'est vrai que j'ai pas la réponse.
Alors, ce que j'essaie, c'est que. Vous aimeriez jouer quel rôle ?
Oui, non, mais c'est vrai, j'en sais rien d'ailleurs. Mais je suis très heureuse de ce qu'on me propose.
Ouais.
Parce que ce sont des rôles qui demandent d'aller très loin et qu'en fait, moi, j'aime aller très loin.
Ouais. Et pas en surface, quoi. C'est un truc.
J'ai ce goût. C'est comme j'ai toujours aimé les trucs extrêmes. J'ai toujours aimé les manèges qui font peur. J'aime les choses extrêmes. Mmh. Et j'aime ça dans le jeu aussi. Après, c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, au bout d'un moment, c'est épuisant. Je pense que je vais très vite ne plus ressembler à rien et puis arrêter.
C'est vrai ? Vous vous imaginez ça ?
On peut pas passer des années, des mois comme ça à jouer des choses aussi. Non pas que ça m'abîme personnellement, mais c'est épuisant. Puis c'est vrai qu'on a envie de rire aussi.
Ouais. Une comédie donc.
Ah oui, par exemple, ça j'adorerais. Ouais.
Et ça, on pense pas à vous.
Si, on pense à moi. Et parfois, d'ailleurs, ça m'arrive de dire non aussi. Mais par exemple, dans le film de Sébastien Marnier, il m'a proposé quelque chose de très différent de ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Et là, c'est vraiment savoureux.
Mm-hmm. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Évidemment, désolé pour tous nos auditeurs optimistes. Hein, je crois qu'il y en a une dizaine, 10, 12, et qui ont été quelque peu plombés par une émission. On a parlé dépression, suicide, tout en chialant sur du bac. Eh ouais, c'est comme ça, la bande originale en 2019. Ambiance d'Ardennes, quoi. Désolé pour tous les comédiens qui vont être amenés à bosser avec Emmanuel Berco et qui vont être exploités, peu ou pas payés, un peu comme son fils, en fait. Eh ouais, c'est ça, la vie, c'est moche, on vous l'avait souvent répété, on se croirait chez Ken Loach. Désolé pour tous les auditeurs et auditrices qu'on aurait pu avoir ce matin s'ils n'avaient pas été opérés par Emmanuel Berco. Eh merde, c'est pas comme ça qu'on va doubler RTL, on est en plein chez les Guédiguian.
Au théâtre avec Nathalie Kuznetsov, Evelyne Istria, Philippe Dormois, David Harib, Thomas Gendronneau et Lola Lelanne. Emmanuel Berco sera donc sur scène au théâtre de l'Atelier du 16 janvier au 24 février pour Face à Face.
Mise en scène Léonard Maton.
Exactement. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'avoir trouvé
merci
le temps d'être venu à ce micro. Lundi, dans cette bande originale, nous recevrons Juliette Binoche et Vincent McCain. Tout de suite, ce sont les carnets de campagne.
McCain.
Oui, c'est pas McCain.
Ouais, mais ça me donne envie de manger. Je pense à ce que vous venez de dire, Emmanuel
bon
Berco, aussi.
Bon week-end. Et vous, les femmes, ça sera dimanche.
Vous, les femmes, Elsa Boubil et Marie-Claude Pietragala comme invité.
Merci, Daniel Morin. Tout de suite, les carnets de campagne de Philippe Bertrand.